je regarde autour de moi et je ne vois rien. Plus de visage dans la rue, le gris a pris le dessus. Plus d'oreilles, plus d'yeux, plus de nez, plus de mains, plus de jambes, plus de pieds. Mais leur bouche me murmure, il faut faire quelque chose pour la nature.
Bonjour à tous. Nous sommes un groupe de jeunes qui ont décidé de lancer un projet radio qu'on a appelé Écolochoix. Donc on va parler d'écologie ensemble. On est 8 jeunes qui viennent d'un lycée à Loches, Saint-Denis. Et on est des élèves de terminale et première. On a tous différentes chroniques et voilà, donc c'est parti avec Constance Mercier, avec l'événement du mois.
Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter la Semaine internationale pour le climat du 20 au 27 septembre 2019. Depuis bien longtemps, le climat est la source de préoccupation pour les citoyens et pour les politiques. Chacun est à même de constater que le climat change. En effet, déjà en 2002, Jacques Chirac déclarait « Suite à d'énormes incendies en Amazonie, au sommet de la Terre de Johannesburg, en Afrique du Sud, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. » Malgré cette prise de position et des mesures prises par les pays pendant ces années, rien ne semble enrayer l'évolution désastreuse du réchauffement climatique avec une multiplication des catastrophes naturelles. Il y a donc eu des canicules de plus en plus nombreuses et de plus en plus longues, des températures de plus en plus élevées par exemple cet été, des pluies diluviennes et inondations de plus en plus fréquentes, des ouragans et tsunamis réguliers entraînant de nombreux morts. Nous nous souvenons également des incendies qui ont ravagé l'Amazonie cet été, et plus récemment encore les incendies en Californie il y a un mois. Les associations pour l'environnement se mobilisent depuis très longtemps et ont le sentiment de ne pas être entendues par les responsables politiques. Les jeunes ont pris le relais avec à leur tête une adolescente suédoise, Greta Thunberg, qui se mobilise avec une conviction étonnante pour une jeune fille de son âge. Ainsi, un appel à la grève a été lancé pour le 20 septembre 2019 sur l'ensemble de la planète par des collectifs environnementaux pour tenter de faire fléchir les dirigeants internationaux. Cette journée a donné le coup d'envoi de la Semaine internationale pour le climat qui s'est tenue jusqu'au 27 septembre 2019 préalablement au sommet Action Climat qui s'est tenu avec la plupart des dirigeants des grandes puissances au siège de l'ONU à New York le 23 septembre. Durant cette semaine, diverses manifestations ont eu lieu, consistant en démarches pacifiques. Sur l'ensemble du globe, pas moins de 4500 actions ont été recensées à travers le monde, et cela ne concerne pas uniquement les grandes métropoles. Le nombre de manifestations à travers le monde et le nombre de participations font de ce mouvement mondial un mouvement unique, car il n'est plus seulement porté par les étudiants, mais aussi par une alliance d'acteurs très différents. Ainsi, les syndicats et entreprises se sont mobilisés, et en France, les gilets jaunes aussi. Malheureusement, des actes de violence ont été ressassés, notamment en France, entraînant de nombreuses interpellations.
Merci beaucoup, Constance. Du coup, on va passer avec Antoine, avec les fake news. Les fake news, c'est un petit peu ce qu'on peut dire sur l'environnement ou des mesures qui ont été prises sur l'environnement, mais en fait, derrière, il y a un peu anguille sous roche. Du coup, on passe à Antoine tout de suite.
Oui, exactement. Donc la fake news, c'est la voiture diesel ou à essence est moins polluante que l'électrique. Alors, donc la voiture électrique n'utilise pas de carburant fossile, mais elle tire son énergie d'une lourde batterie, donc des batteries qui sont au lithium et qui contiennent également du manganèse ou d'autres matériaux qui sont tous les trois des métaux. Et plus des deux tiers des ressources en lithium sont issues des salars d'Amérique du Sud, principalement de Bolivie ou du Chili ou d'Argentine. Son extraction et son traitement entraînent une pollution des sols, un assèchement des rivières, un accroissement intoxication et maladies graves pour les populations locales. Quant au cobalt, par exemple, qui fait également partie des composantes des batteries, plus de la moitié de la production mondiale est issue des mines congolaises aux conditions de sécurité rudimentaires qui exploitent souvent des enfants. Toutefois, il y a quand même quelques progrès qui laissent entrevoir des alternatives à ces métaux, par exemple le zinc pour l'autoconsommation ou le sodium par exemple pour la mobilité, et les quantités nécessaires aux batteries lithium baissent progressivement. Mais du coup, le problème, c'est que les batteries lithium, en fait, on ne sait pas les recycler. On a aucun moyen de les recycler. Le lithium, on ne sait pas le recycler. Son extraction, du coup, et son traitement polluent les sols. Et pour l'instant, c'est peut-être une très bonne idée de, enfin, l'électrique pour une transition écologique. Mais à long terme, à mon avis, il y aura vraiment un problème de stockage de batteries et de recyclage de batteries.
Du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est trouver une autre solution. Est-ce qu'il faudrait trouver une solution pour recycler les batteries? Est-ce qu'il faut trouver une autre solution d'énergie pour faire rouler nos voitures? Est-ce qu'il faut...
Bah, oui, en soi, oui, il faudrait trouver une autre solution. Mais à mon avis, l'électrique est un bon moyen pour faire la transition diesel, puis enfin, trouver du coup un autre carburant propre, vraiment propre cette fois.
Bon, bah merci beaucoup Antoine. On va maintenant passer à Rebecca avec la célébrité du mois niveau écolo. Donc la célébrité qui a fait quelque chose de gros pour l'écologie dans le mois.
Bonjour. Alors j'ai choisi aujourd'hui de m'exprimer sur deux célébrités qui s'engagent dans l'environnement. Donc la première, c'est Stella McCartney. C'est une célèbre styliste anglaise qui a créé sa propre marque, qui est maintenant une marque de luxe. En tant que végétarienne, elle n'utilise ni fourrure ni cuir dans ses collections. Et pour sensibiliser tout le monde, elle a aussi fait des collections pour H&M, Adidas et Gap, qui sont plus abordables, à des prix plus abordables.
Combien coûtent les vêtements?
Par exemple, le prix d'un sac est assez cher, c'est environ 670€. Mais il ne faut pas oublier que sa marque de vêtements, comme j'ai dit précédemment, est une marque de luxe. Le prix n'est donc pas comparable aux autres magasins comme H&M et Adidas, c'est plus comparable aux marques comme Louis Vuitton, Gucci et tout ça.
Et malgré les prix élevés, ça se vend bien?
Alors je ne sais pas exactement le nombre de produits vendus par an, mais son chiffre d'affaires de la boutique principale de Paris a été de 13 millions en 2018. Donc ça se vend quand même bien. Et beaucoup de jeunes femmes portent des sacs qui sont très à la mode en ce moment dans les quartiers chics de Paris. Fin monde. La deuxième célébrité que je vais vous présenter, c'est Greta Thunberg. C'est une fille suédoise de 16 ans qui milite pour la lutte du réchauffement climatique. Elle est autiste et elle devient végane en fait, en influençant sa famille. Son père et sa mère le deviennent aussi. Elle refuse des achats non nécessaires, puis cesse de prendre l'avion à l'âge de 15 ans. Sa famille fait de même, et elle a dernièrement quitté les États-Unis à bord d'un voilier pour retourner en Suède. C'est dans sa famille qu'elle se serait rendue compte de ses capacités de convaincre les autres, c'est pour cela qu'elle a commencé son mouvement à travers les... voilà. Donc depuis août 2018, elle mène une grève de l'école tous les vendredis pour dénoncer l'inaction de son gouvernement. Elle a appelé le mouvement Friday for Future. C'est le 27 septembre 2019 qu'une grève pour l'école rassemble un demi-million de personnes à Montréal, au Canada. Elle a aussi pris la parole dans plusieurs assemblées et parlements, comme le Parlement britannique, et Greta a reçu de nombreux prix et récompenses. Elle a aussi fait polémique dans beaucoup de pays, puisqu'elle est régulièrement accusée d'objets marketing et de monnayer ses interventions, puisqu'elle se fait une énorme pub. Elle est aussi critiquée aussi à cause de son autisme et de son âge, puisqu'elle est assez jeune et les hommes politiques n'ont pas l'habitude de voir une si jeune fille prendre des démarches aussi grandes. Et beaucoup de ses parents sont des célébrités mondiales comme DiCaprio, Dwayne Johnston, plus connu sous le nom de Rock, ou encore Bruno Mars.
D'accord. Et il y a combien de gens qui la suivent à peu près sur les réseaux sociaux?
Il y a de nombreuses personnes, donc le chiffre exact c'est 8 300 000 donc sur Instagram. Donc elle a vraiment un énorme impact sur la société de nos jours.
D'accord. Bon, bah, merci beaucoup Rebecca. On va tout de suite passer à Timothée avec la musique écolo.
Oui, donc moi je vais vous parler d'une musique écolo qui est sortie au début de l'été 2019. Donc c'est la chanson Earth de Lil Dicky. Donc avant de vous en parler plus, je vais vous la diffuser.
It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say...
Simulation. Huh. Give each other names like Ahmed and Pedro. And yeah, we like to wear clothes. Girls still look beautiful. And it covers up our human dick. Eat a lot of tuna fish. But these days it's like we don't know how to act. All these shootings, pollution. We under attack on ourselves. Like, let's all just chill. Hey. Respect what we built. Hey. Like, look at the internet. It's cracking as hell. Fellas, don't you let it come when you have sex. Hey. And I heard women orgasms are better than a dick's. So what we gotta land for? What we gotta stand for?
Love.
And we come on, everybody. I know we're not all the same, but we're living on the same Earth.
Have you ever been to Earth?
Everyone who's listening has been to Earth, Ariana. We're not making music for aliens here.
Are we gonna die?
You know what, Bieber? We might die. I'm not gonna lie to you. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid. Unless we get our shit together.
Et voilà, donc vous êtes toujours sur Radio Campus Tours, vous venez d'écouter The Earth de Lil Dicky. Donc on était, vous êtes bien en train d'écouter Écolo Choix, et on était avec Timothée qui nous parlait du coup des musiques écologiques, donc c'est reparti avec Tim.
Oui, donc du coup, pour vous parler plus de cette musique, c'est une musique qui est sortie, comme je vous le disais avant, en début d'été 2019. Donc, comme vous avez pu l'entendre, il y a plusieurs chanteurs. En vérité, il y en a 28 sur la musique, qui est quand même un record. Et il y en a des, il y a des gros chanteurs, comme il y a Justin Bieber, Ariana Grande. Il y a même des plus anciens dont on peut se souvenir, comme Psy. Cette musique, ils l'ont sortie pour militer, pour l'environnement, pour sauver la planète. Et donc, ils se sont associés à la Leonardo DiCaprio Foundation, qui lutte aussi pour l'environnement. Donc cette musique, si vous ne l'avez pas entendue ou si vous n'avez pas vu passer son clip sur YouTube ou quoi que ce soit, donc sur YouTube, son clip a réuni 205 millions de vues quand même et est actuellement un disque d'or avec plus de 500 000 ventes en physique et en streaming. Donc pour vous parler un peu plus de l'artiste, Lil Dicky, de base, c'est un rappeur troll. Si on peut dire, il traite ses musiques, ses sujets de musique sont souvent un peu ironiques, un peu décalés par rapport à ce qu'on peut entendre d'habitude. Et mine de rien, il a quand même réussi à sortir des musiques qui ont malgré tout fait beaucoup de vues, qui ont eu un certain impact. Et du coup, il s'est dit, avec ma notoriété, avec mon impact, je vais militer pour essayer de sauver la planète et essayer de réunir parmi les personnes les plus influentes du monde pour pouvoir inciter les gens à être plus écolo au final. Et apparemment son pari a été relativement réussi vu l'ampleur que sa musique a prise et du coup ses partenaires avec qui il a fait tout ça.
Merci beaucoup, Tim.
Sacré géranium, tu sens bon la terre et toi aussi l'anémone. Tulipe, je te préfère, puis de toute façon, vous sentez tout bon, vous êtes toutes belles, mesdamoiselles. Ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Les poules et le coq. Ce conte fleurette, c'est vrai qu'il est seul. Ce lapin, je crois que ça l'embête. Dis-toi le chien, je ne te prive de rien. Remue donc ta queue, fais-moi tes beaux yeux. Ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chaud. C'est vous les légumes, enfin je présume, vous n'êtes pas reconnaissable. Il faut vous dire que l'hiver vient de partir, le temps est encore variable. Un coup d'arrosoir avant la tombée du soir, un coup de râteau autour des poireaux. Ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chou.
Merci beaucoup. Du coup, on va passer à Lilou qui va nous parler de sa chronique Parlons peu, parlons bouffe. Donc c'est parti.
Merci. Alors, lorsqu'on pense à l'écologie, au réchauffement climatique ou encore à la pollution, on n'a pas forcément en tête ce qui peut se trouver dans notre assiette. Alors qu'en réalité, la nourriture et l'écologie sont très étroitement liées. En savoir plus sur les produits que nous consommons quotidiennement peut avoir un impact considérable sur A, l'environnement, et B, notre santé. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous parler dans Parlons peu, parlons bouffe, de la viande. Et oui, il faut savoir que 83% des terres agricoles sont dédiées à l'élevage qui élève et abat plus de 70 milliards d'animaux par an. Et ceci n'est pas sans répercussions sur la biodiversité. La raison pour laquelle les élevages s'étendent autant est parce qu'il faut aussi produire la nourriture que les animaux consomment. Par exemple, en Amazonie brésilienne, 63% de la déforestation est due à l'élevage. Le soja qui y est produit sert directement à nourrir le bétail sur place, mais aussi à l'export pour nourrir nos vaches laitières, nos cochons et nos volailles en France. Donc cette déforestation à grande échelle nuit à la biodiversité, mais aussi au climat, car elle entraîne des émissions de gaz à effet de serre qui contribuent à exacerber les changements climatiques. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, l'élevage représente 14,5% des émissions de gaz à effet de serre, soit autant que le secteur du transport. La quantité d'eau utilisée par l'élevage est aussi considérable, car 27% de l'eau potable va à l'élevage. De plus, si on compte toute l'eau nécessaire pour faire un steak haché, on s'aperçoit qu'il faut 24 000 litres d'eau. L'élevage n'est pas seulement l'une des sources principales du réchauffement climatique, mais aussi l'une des possibilités de solutions des plus radicales et efficaces.
Merci beaucoup, Lilou. Du coup, on va passer à Sabrina, qui va nous parler de l'influenceur du mois.
Merci, Lilou, pour cette présentation. Donc, les influenceurs, ce sont ces personnes qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, est capable d'être en relais d'opinions influençant les habitudes de consommation dans un but marketing. Pour revenir au sujet, il faut savoir que tout a commencé en 2018. De plus en plus de personnalités influentes telles que des youtubeurs ou même des stars de réseaux sociaux ont montré leur engagement par les causes écologiques. Par exemple, le mouvement hashtag on est prêt, lancé par les youtubeurs français, est un mouvement spontané visant à changer les mentalités des jeunes adolescents. Globalement, de plus en plus d'acteurs partout dans le monde parlent et agissent à propos de ces sujets. Les sujets environnementaux commencent enfin à faire partie du débat public, et ce même si une majorité de la population est encore un peu réticente à son sujet et son mode de vie. À votre avis, en 2020, serait-elle enfin l'année du basculement du changement où l'on prendra moins de nous, en tant que jeunes, de vraies mesures pour améliorer notre impact sur la Terre ? C'est toute la question en suspens pour cette année.
Merci beaucoup, Sabrina.
Da réfléchissez sur les calendriers. 50 et des poussières après Adolf Hitler. 2000 après JC dans le flot des damnés. Tu te refais les paupières pour cacher ton cancer. Oh, terre, 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 joyeux anniversaire.
Du coup, bah, y a une grande question qui se pose autour de ce sujet. Comment faire pour que notre alimentation accompagne la transition écologique ? Est-ce que vous pensez que du coup, faut diminuer sa consommation de viande ? Est-ce qu'il faut acheter des produits particuliers provenant de certains endroits ?
Alors moi, je pense qu'il faudrait diminuer la consommation de viande. Franchement, j'ai un exemple très concret. Que par exemple les États-Unis ils pourraient nourrir 800 millions de personnes avec les céréales consommées par le bétail. Donc si le bétail il y en avait moins, il y aurait moins de céréales consommées par eux et donc les gens pourraient plus se nourrir par les céréales, donc ça ferait plus de nourriture. Et par exemple dans des pays moins développés où il y a moins de nourriture, ils pourraient donner la nourriture.
D'accord, mais il y a aussi un autre sujet pour répondre à la culture de céréales, c'est-à-dire que pour faire pousser tous ces aliments, il y a des pesticides et ces pesticides polluent les terres. Mais dans ce cas, ça veut dire que on mange quoi ? Parce que si on peut plus faire pousser nos graines et qu'en même temps on peut plus nourrir les animaux, on fait comment ?
Bah alors. Pourquoi est-ce qu'on mange de la viande ? Bah c'est parce qu'on a besoin de se nourrir et qu'on a besoin d'apports nutritifs. Souvent ceux qui sont en mode oui il faut absolument manger de la viande, c'est bon pour la santé, ils ramènent souvent la vitamine B12. Donc c'est vrai que la vitamine B12 en fait on peut la trouver que dans la viande, sauf que faut savoir que cette vitamine à la base elle vient des minéraux, donc c'est-à-dire l'eau qui est de roche que boivent les animaux ou la terre qu'ils mangent en même temps que l'herbe qu'ils mangent. Et sauf que à cause de tous ces pesticides qu'on met bah justement dans l'herbe etc et aussi dans la viande, et ben cet apport les animaux ne l'ont plus, ils n'ont plus cet apport qui se doit être naturel. Donc ça veut dire que même quand on achète un steak, ben on n'a pas cet apport et on est obligé si on veut le compléter de prendre des compléments alimentaires. Donc il faudrait qu'on, en fait c'est pas vraiment d'arrêter de produire de la viande mais plus la produire en respectant la nature et en essayant de préserver la biodiversité en arrêtant de mettre autant de pesticides.
Oui, donc c'est tout ce que tu dis, c'est vraiment vrai, oui. non, mais d'ailleurs, il y a un film ou un documentaire qui est sorti en 2018 sur Netflix, où justement qui suit un combattant de MMA qui au fait découvre donc d'après le résumé l'alimentation optimale pour la santé et les performances humaines. Et du coup au fait c'est un documentaire qui suit ce combattant qui au fait passe d'une alimentation classique entre guillemets à une alimentation végane. Du coup il va manger principalement que des fruits et des légumes. Et on pourrait dire beaucoup de choses, comme tu l'as dit, par rapport à certaines vitamines, certaines protéines qui sont parfois plus présentes dans les viandes. Et donc on pourrait dire que la viande c'est mieux pour les sportifs, pour quoi que ce soit. Sauf que justement, il y a ce documentaire qui vient prouver le contraire et qui vient mettre en avant le fait que être végétarien ou vegan, ça n'empiète pas sur ta santé si tu arrives à bien gérer tout ça.
Mais vous trouvez pas que c'est peut-être un peu abusé de demander à tout le monde de devenir soit végétarien, soit vegan? Parce que je pense que tout le monde n'est pas capable d'arrêter sa consommation de viande comme ça.
Alors moi personnellement, je pense que l'homme n'arrêtera jamais de manger de la viande. Ça a toujours été comme ça depuis la préhistoire, on chassait, ça a toujours été comme ça. Mais peut-être qu'il faudrait effectivement ralentir notre consommation, ou au moins déjà surtout changer les méthodes d'élevage, changer les méthodes de production de nourriture, donc par exemple avec le soja, je crois que t'en as parlé, Lilou. Du coup voilà, je pense que l'homme en fait n'arrêtera jamais de manger de la viande, mais il faut quand même ralentir notre consommation de viande et après considérer ça peut-être comme un petit plaisir de temps en temps.
J'appuie sur le fait de ce que tu as dit. Donc là, il faudrait privilégier des commerçants locaux, puisque eux vendent de la viande de meilleure qualité qui vient de la région ou pas très loin, comme dans les grandes surfaces où la viande est très chère, pas chère, et de très grande quantité, mais qui vient de beaucoup plus loin, donc ça consomme beaucoup plus de choses.
Alors oui, je suis totalement d'accord avec vous, mais la chose, le fait est que ça va être très compliqué de ralentir toute cette production, dans le sens où, comme l'a dit mon collègue, l'humain est omnivore et donc mange de tout, mange aussi bien des légumes et aussi bien de la viande. Mais c'est vrai qu'il va falloir forcément ralentir cette production de viande, parce que on voit bien, vous avez sûrement vu une fois dans votre vie des photos des élevages de vaches aux États-Unis. C'est sur des centaines de kilomètres carrés, elles sont toutes entassées. Et le fait est que c'est comme ça parce que souvent la vente et la production de viande pour que ce soit pour les producteurs ou pour les grandes marques, les distributeurs, ça leur apporte plus d'argent avec un coût sûrement minimal par rapport à la production de végétaux, où là, ils vont forcément avoir besoin sûrement de champs plus grands, de produits spéciaux qui du coup, comme on l'a dit, éviter les pesticides, donc du coup vont sûrement coûter plus cher. Et donc ce sera moins rentable pour eux. Donc la transition va être très compliquée, je pense, vu quand même que la majorité de la population dans le monde mange encore de la viande, et que même si tout le monde, d'un commun accord, se dit on ralentit la viande dans les repas, de toute façon, va y avoir un bon bout de temps où cette production va continuer dans ce sens, dans le sens actuel, où c'est une production de masse, avant que l'industrie se rende compte et se dise « Ah ouais, là, il y a une diminution de l'intérêt
ou de l'achat de des produits de charcuterie, tout ça. Et là, ils vont commencer à baisser. Donc, je pense que vraiment, même si c'est ce qu'il faut faire au final, c'est un fait. La transition et l'évolution vers une terre où, du coup, on produit et on consomme à en fonction de nos besoins et pas les dépasser, au fait, c'est très compliqué pour l'instant, quoi.
Mais l'époque où les hommes mangeaient moins de viande qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle n'est pas si loin que ça. Hein. Si on regarde les parents de nos parents, donc du coup nos grands-parents, ils mangeaient pas tant de viande que ça. Hein. C'était pas quelque chose d'extraordinaire d'acheter, je sais pas, deux bons steaks par semaine. Mais c'est vrai qu'en une très courte période, on a commencé à produire et à consommer mais énormément de viande. Mais l'époque où on mangeait pas tant que ça, elle est pas si loin et je pense pas que c'est si compliqué de retourner en arrière, entre guillemets. Mais je pense qu'il faut prendre un peu de recul et de se dire bah ouais, il y a 80 ans ou même 50 ans, on mangeait pas tant de viande que ça. Et c'est faisable parce qu'il le faisait très bien. Et puis, je pense que si on mettait un peu plus cher dans ce steak ou ces deux steaks par semaine, je pense qu'au final, ça serait la même somme d'argent qu'on mettrait dans les 6 petits steaks de mauvaise qualité par jour.
Oui, mais il y a 80 ans, comme tu dis, surtout le problème, c'est les industries, en fait, parce que les industries ont vraiment compris le fait que les consommateurs, on aimait la viande et puis qu'on pouvait payer moins. Enfin, je sais pas comment dire, mais enfin, les industriels, en fait, ont compris. Enfin, ils ont trouvé le bon filon, en fait, à exploiter. Et du coup, à mon avis, je pense que c'est peut-être pour ça, enfin, c'est même carrément pour ça que qu'on est clairement en surproduction de viande, en fait, par rapport à il y a 80 ans.
Mais oui, c'est vrai, en fait, parce que on a vraiment ce culte, en fait, de manger de la viande. C'est vraiment rentré dans nos codes, dans notre société occidentale, dans nos codes sociaux, parce qu'il y a vraiment tout ce culte de la force autour de la viande. Il faut manger des protéines qui viennent de la viande. Sauf que, en fait, on s'est rendu compte que c'est une fausse conception, parce que les protéines, bah oui, ça contribue à la construction des muscles. Après, on n'est pas sans savoir que il y a aussi des protéines végétales, mais sauf que les muscles se basent, enfin se oui, c'est totalement vrai, parce qu'il y a, en fait, depuis certaines quelques décennies, on a complètement construit un culte de la force autour des protéines animales. Donc il faut manger de la viande pour être un vrai homme, pour être fort. Sauf que, en fait, c'est quoi les protéines? C'est des chaînes d'acides aminés, et tous ces acides aminés sont aussi présents dans les végétaux. Sauf que on nous dit oui, mais alors les protéines alimentaires qui viennent des animaux sont plus bénéfiques. Sauf que non, c'est tout est dans la qualité de la protéine et dans la quantité de la protéine que l'on mange. Et aussi, il faut savoir que les protéines, c'est pas seulement la seule molécule qui contribue à la construction des muscles. Il y a aussi les glucides. Et si on base seulement notre régime pour être plus endurant et plus fort sur les protéines, et ben, en fait, c'est complètement faux, enfin c'est pas du tout nécessaire, parce que on s'est rendu compte qu'on développe plus de fatigue chronique, etc., parce qu'on a aussi besoin des glucides. Donc en fait, il suffirait de diviser, en fait, par deux notre consommation de protéines animales pour dégager assez de nourriture pour 2 milliards de personnes supplémentaires.
Merci beaucoup. Du coup, c'était Éco le choix. Donc c'était Constance, Tim, Antoine, Rebecca, Sabrina, Johanna et les deux Lilou qui présentaient cette émission, et on se retrouve une fois par mois avec Éco le choix.
Je regarde autour de moi et je ne vois rien. plus de visage dans la rue. Le gris a pris le dessus. Plus d'oreilles, plus d'yeux, plus de nez. Plus de mains, plus de jambes, plus de pieds. Mais leur bouche me murmure. Il faut faire quelque chose pour la nature. Je regarde autour de moi. Et le ciel ne bouge plus. Plus de visage dans la rue. Le gris a pris le dessus. L'horizon est sale et le vent s'est tu. Les couleurs se valent, elles n'existent plus. Mais le ciel me susurre. Il faut faire quelque chose pour la nature. Il faut inventer des histoires. Et devenir sourd aux rumeurs. Il faut se remettre à l'air pur et débrancher les transistors. Il faut danser dans l'eau qui dort et parler le langage des fleurs. Il faut donner aux animaux des drogues dures. Oublier la fonte des glaces et sans arrêt changer de place. Il faut remettre de la couleur, chanter à l'oreille des morts. Ne pas avoir peur d'avoir peur, ne pas avoir peur d'avoir tort. Se lancer à l'aventure, être le tout et son contraire, mais ne pas se laisser faire.